RCF. Bonjour à tous, 18-19 Reims-Ardennes aujourd'hui, puisque vous le savez, pendant cette période de Noël et cette période des vacances scolaires, cette émission est diffusée sur RCF Reims-Ardennes et n'est pas une émission régionale comme d'habitude avec Chalon. C'est pas très compliqué parce que finalement pour nous, vous allez être fort branchés sur Reims et le département des Ardennes. Au sommaire, nous parlerons bien sûr de Noël. J'espère que Noël hier s'est très très bien passé pour vous. Des fêtes de Noël avec Regard sur le Monde et Claude Ruiz, comme tous les lundis. Nous écouterons un maire, Bruno Cauchemet, maire de Romigny. Votre maire nous parle. Nous reviendrons avec Jacques Terray sur tout ce qui se passe autour de Noël et autour de ses souvenirs d'autrefois dans le département des Ardennes. On retrouvera également Patrick Dumuy à propos de Noël. On souhaite bien sûr à toutes et à tous de bien profiter de ces vacances scolaires pour tout le monde, puisque nous sommes dans cette trêve des confiseurs entre Noël et le 1er janvier. À noter que nous aurons un certain nombre de rendez-vous, en particulier vendredi avec Mgr Étienne Véteux qui sera avec nous le matin et le soir également avec Mgr Éric de Moulin-Beaufort qui nous présentera ses vœux pour 2024. Mais tout de suite, en ce mardi 26 décembre, notre premier rendez-vous, c'est avec Mémoire Chrétienne et Jean-François Boulanger. Il est avec nous aujourd'hui.
Jean-François Boulanger que l'on retrouve par téléphone. Jean-François, bonjour.
Bonjour.
Les chemins de Saint-Martin. Nous avons eu l'occasion d'évoquer les chemins de Saint-Jacques de Compostelle dans de précédentes émissions, mais ce type de pratique pèlerine ou de randonnée fait des émules. D'autres chemins se développent également. Ils s'inscrivent dans la mémoire d'un saint homme qui a marqué l'histoire de l'Église en Europe, Jean-François Boulanger.
Absolument. Et effectivement, il existe à travers la France de nombreuses associations à vocation culturelle et pas simplement cultuelle, qui se fixe comme but d'accueillir les pèlerins sur les chemins de Saint-Jacques, de participer à l'entretien des chemins en collaboration avec les autres associations jacquaires. Et parmi celles-ci, il y a l'association 53 Compostelle et autres chemins, et comme le nom de cette association l'indique, elle se fixe comme but de promouvoir d'autres chemins, je cite, « faisant écho aux chemins de Compostelle ». Et parmi eux, il y a le ou les chemin de Saint-Martin.
Tout de suite, on a envie d'en savoir plus. Qu'est-ce que le chemin de Saint-Martin ?
Alors, le site de l'association le présente en ces termes. Je cite, « Il relie l'Europe de l'Est à l'Europe de l'Ouest, de la Hongrie à Tours, en passant par la Slovénie, l'Italie et la France, sur 2500 km. » Autrement dit, ce chemin est le reflet d'une vision européenne très ambitieuse.
Effectivement, un tracé qui surprend. Là encore, pourquoi Jean-François Boulanger ?
Alors, parce que Saint-Martin est né en Hongrie, dans une ville qui s'appelle Zombatelli, je ne garantis pas la prononciation, et qu'il est mort donc à Caen de Saint-Martin en 397, près de l'abbaye de Fontevraud, et que son tombeau est déposé à Tours dans la crypte de la basilique qui porte son nom. De ce fait, ce qu'on va appeler la Via Sancti Martini, la chemin de Saint-Martin, donc, développe plusieurs itinéraires qui s'organisent autour de trois grands chemins que l'on nous présente comme empruntés par Saint-Martin pendant sa vie. Et certains de ces chemins sont prolongés pour tenir compte des lieux martiniens, autrement dit liés à la vie de Saint-Martin, particulièrement importants, par exemple Utrecht avec sa capitale Saint-Martin. Et tous sont centrés sur Tours, lieu du tombeau de Saint-Martin.
Pour une fois, Jean-François Boulanger, on va y aller par quatre chemins, j'ai envie de dire.
Absolument, on va y aller par quatre chemins.
Quels
sont-ils ? Je ne suis pas sûr que les pèlerins puissent faire les quatre chemins rapidement, ceci étant dit. Pour commencer, n'y allez pas par quatre chemins. Alors, il y a d'abord le chemin de Zombatelli, donc c'est là que Saint-Martin est né, donc, et on nous dit que le saint a parcouru ce chemin pour aller voir ses parents dans sa ville natale, actuellement en Hongrie. Il traverse donc la France jusqu'au col du Petit Saint-Bernard, puis le nord de l'Italie, la Slovénie, donc au nord de l'ancienne Yougoslavie, et l'ouest de la Hongrie. Il y a aussi le chemin de Trèves, c'est le chemin que Saint-Martin, devenu évêque de Tours, a parcouru pour aller plusieurs fois voir l'empereur qui se trouvait à l'époque à Trèves, l'empereur romain, aujourd'hui en Allemagne. Il passe par Chartres, Paris, Reims et le Luxembourg. Il y a également le chemin d'Utrecht, c'est le chemin qui permet de relier Tours à la ville d'Amiens, lieu de la célèbre scène du partage du manteau. Jusqu'à Paris, il emprunte le même parcours que Trèves, que celui de Trèves, et après Amiens, il se poursuit vers la Belgique et les Pays-Bas pour relier plusieurs grandes villes au patrimoine martiniquais important, Utrecht en particulier. Et enfin, il y a le chemin de Saragosse. C'est un chemin qui part vers Bordeaux et Saragosse, où Saint-Martin serait allé pour des réunions d'évêques. En partant de Tours, il prend le chemin de l'évêque jusqu'à Ligugé, puis il passe par Cognac, Bordeaux et Pau, avant de traverser les Pyrénées au col de la pierre Saint-Martin.
Si je peux me permettre, Jean-François Boulanger, 4 chemins, c'est quand même beaucoup.
Ah oui, mais c'est pas tout, parce que l'association a imaginé aussi sur le plan local ce qu'elle appelle la grande boucle de 500 km. En fait, cette grande boucle qui se trouve en Touraine et dans le Poitou, c'est un ensemble de 3 chemins qui font au total 500 km et qui relient donc des lieux qu'on n'a pas appelé Terre de Saint-Martin. Et donc, vous avez d'abord le chemin de l'évêque de Tours. C'est le chemin que Saint-Martin a parcouru pour rejoindre Tours, où il a appelé par les Tourangeaux à devenir leur évêque en 371. Donc, ce chemin part de Ligugé, abbaye qu'il a fondée donc en 361. Vous avez aussi le chemin de l'été de la Saint-Martin. Alors, c'est le chemin que Saint-Martin a fait la fin de sa vie pour aller à Candès ou à Caen de Saint-Martin, une paroisse qu'il avait fondée à la limite de son diocèse. Et là, il va mourir le 8 novembre 397. Et les Tourangeaux ramènent son corps à Tours par la Loire. Et la légende raconte qu'au passage de son corps, les arbres fleurissaient sur les berges. Et c'est de là que vient l'expression de l'été de Saint-Martin. Et enfin, le chemin de Ligugé qui relie Caen de Saint-Martin à Ligugé, qui passe notamment par Fontevraud, l'abbaye, Loudun et Poitiers.
Mais est-ce que tous ces chemins bénéficient d'une reconnaissance officielle ?
Alors, la Via Sancti Martini a été labellisée itinéraire culturel européen par le Conseil de l'Europe. Et son développement, le développement de cette Via Sancti Martini est développé en France par le Centre culturel européen Saint-Martin de Tours, fondé en 2005. Ce centre culturel vient de changer de nom lors de son assemblée générale du 30 septembre 2022. Et il est devenu Via Sancti Martini France, qui a pour but donc de sauvegarder, de mettre en valeur le patrimoine culturel et naturel lié au personnage de Saint-Martin de Tours en France. Et donc, ça se traduit par le fait que, par exemple, on a mis en place un système de bornes, comme pour Saint-Jacques, un système de carnet du marcheur pèlerin, comme pour Saint-Jacques, là encore, avec des tampons. Hein, on commence à voir apparaître des tampons de ce type. Et donc, c'est ainsi que, aujourd'hui, y a des pèlerins qui empruntent donc ce chemin, en tout cas sur une petite partie. Hein. Je vais en citer 2 dont le périple est mentionné par le bulletin de l'association. Ils s'appellent Dominique et Hervé. Et ils ont marché de Nantes à Tours. Je vais les citer très rapidement, si vous me permettez.
On vous le permet.
Si j'ai le temps. Hein. Si nous sommes partis le 6 juillet 2022 du passage Sainte-Croix à Nantes, nous avons eu la chance d'avoir du très très beau temps. La partie Loire-Atlantique est très bien balisée, les fameuses bornes. Nous avons apprécié la proximité avec la Loire. Au début, nous faisions les petits détours dans des églises dédiées à Saint-Martin, mais nous nous sommes aperçus que cela nous retardait beaucoup. Alors, nous avons limité nos visites, préférant aller d'une étape à l'autre le plus directement possible. Nous avons eu la messe du dimanche soir à Béhuard, une très belle étape. Et puis, la partie Maine-et-Loire s'est faite tant bien que mal, parce que le balisage n'est pas fait partout. Et il y a une application qui permet de retrouver son chemin. Vous avez marché pendant 14 jours, endurant quelques difficultés à cause des sacs à dos certainement trop lourds, des ampoules aux pieds et de la longueur des étapes. Du fait des hébergements, nous avons parcouru soit des étapes trop longues ou parfois trop courtes. Des distances qui se prolongeaient d'autant plus que nos logements étaient rarement situés le long du chemin. À Tours, nous sommes restés 2 nuits chez des sœurs bénédictines, où nous avons pu nous reposer physiquement et vivre et quelques offices à présent. Merci pour tous les renseignements que vous nous aviez donnés avant de partir à propos des visites, du chemin et de la vie de Saint-Martin.
Jean-François Boulanger, pour reprendre quelques éléments, vous avez parlé d'une association culturelle. Le récit que vous venez de nous lire a une dimension religieuse incontestable. Quelle est la position de l'Église face à ce pèlerinage qui fait mémoire de Saint-Martin ?
Eh bien, il est reconnu par l'Église. Par exemple, le diocèse de Poitiers le reprend à son compte, puisque les services des pèlerinages des diocèses de Poitiers et de Tours ont proposé cette année à toutes les personnes de leur diocèse un pèlerinage de 13 jours allant du 22 juin au 2 juillet sur la Via Sancti Martini pour un ou plusieurs jours, avec les étapes suivantes, alors on le prend quand on veut, avec donc les étapes qui donc suivent les différentes éléments, hein, les différentes étapes. Et donc, vous voyez, ça existe, hein, ça se met en place. Et si vous permettez de conclure, on dira que, ben, ma foi, si vous avez parcouru tous les chemins de Saint-Jacques, ceux de Saint-Martin vous attendent. Ils sont moins fréquentés que les premiers, mais actuellement, ils sont sans doute plus proches de la mémoire du saint qu'ils honorent que, disons, les chemins de Saint-Jacques, tels que nous avons évoqués parfois dans les émissions précédentes.
Eh bien, merci Jean-François Boulanger de nous avoir éclairé aujourd'hui sur les chemins de Saint-Martin. Et on vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle émission. À très bientôt.
À très bientôt.
Noël à Jérusalem, près d'un mur que l'on croyait perdu, un homme à genoux est là, il pleure à côté de moi, élève les yeux en remerciant le ciel. Noël à Jérusalem, les pieds nus aux portes des mosquées, ils sont des milliers qui viennent pour y déposer leur peine, le visage à terre jusqu'à la nuit tombée. Ces mains qui prient au même instant ici n'ont-elles pas la même ferveur? Les hommes auraient-ils oublié aussi que c'est Dieu qui fait battre leur cœur? C'est aussi l'enfant de Bethléem et le pèlerin guidé par l'étoile du berger cherche la maison de sa nativité. Noël à Jérusalem, c'est le monde au pied de l'Éternel qui vient implorer son nom et lui demander pardon de s'être égaré loin des chemins du ciel. Pourtant, il suffirait de voir un jour s'élever dans une prière le cœur de trois hommes éperdus d'amour pour changer la face de la terre. Noël à Jérusalem, près d'un mur que l'on a retrouvé, un homme à genoux m'a dit tout est changé dans ma vie, car Jérusalem est de nouveau sur terre, la première ville bénie le Seigneur a dit, je ferai ici mon plus merveilleux Noël à Jérusalem.
Voilà, c'était Noël à Jérusalem qu'on a déjà d'ailleurs entendu samedi dans le magazine du week-end. Votre mère nous parle, vous le savez, c'est une émission qui est diffusée tous les midis et diffusée le soir à 18h20. Et comme il est pratiquement 18h20 ce soir, c'est l'occasion de retrouver Bruno Cauchemet. Il est maire de Romigny dans le département de la Marne. Bruno Cauchemet, bonjour.
Oui, bonjour.
Merci d'être avec nous. Alors c'est l'occasion de vous connaître vous, de connaître votre commune. Alors justement, parlons un peu de votre commune. Combien y a-t-il d'habitants et vous êtes maire depuis combien de temps, jeune maire?
Alors, il y a 220 habitants. Hein, ça reste très constant depuis de nombreuses années. Et puis, ben, moi, je suis maire depuis 34 ans. J'entame mon sixième mandat.
Et on peut dire que vous n'êtes pas lassé de ce mandat parce que vous êtes un maire passionné.
Oui, passionné, et puis c'est une fonction intéressante, de rendre service aux gens, c'est très intéressant. Hein. Bon, on a des hauts, des bas, ce qui est normal, hein. Puis il va y arriver un moment où je laisserai ma place, c'est normal.
Alors, justement, Bruno Cauchemet, on peut en savoir un peu plus sur votre commune aujourd'hui, là où elle est située, mais quel type de population, quel type d'habitants habitent chez vous, les plus de 200 habitants?
Eh bien, si vous voulez, jusqu'alors, c'était surtout c'est une commune rurale, hein. C'était des gens qui travaillaient dans les fermes, hein, un peu dans les vignes. On n'a pas de vignes, nous, mais encore aux alentours, on travaille en vignes. Et depuis le Covid, si vous voulez, ben, la population a changé, puisqu'on a eu énormément de gens qui viennent de la ville, si vous voulez, qui sont venus sur Romigny. Et la population de Romigny a changé depuis 3 ans.
À combien de kilomètres de Reims vous êtes à Romigny ?
On est à 25 kilomètres de Reims.
Alors peut-être qu'il y a des personnes qui, avec le Covid entre autres, se sont dit avoir une maison, d'ailleurs c'est certainement moins cher forcément, dans les villages, et qui ont trouvé véritablement chez vous un cadre de vie, une qualité de vie.
Oui, il y a ça. Bon, on est aussi à, disons, 6 kilomètres de la sortie de l'autoroute, hein, la sortie Dormant du A4. Donc il y en a qui travaillaient un petit peu vers Dormant, d'autres vers Reims, et ils ont choisi le milieu un peu du village. En plus, sur Villantardenois, il y a une supérette, on a tout un pôle de distribution de médecins, de choses comme ça. Donc ça attirait quand même les gens. Et puis le fait de venir à la campagne dans la verdure, quoi.
Alors, vous êtes souvent sollicité en tant que maire, hein, on disait même que vous êtes, c'était Gérard Larcher qui le disait, je le cite souvent, à portée d'engueulade, on voit le maire, des fois on le félicite, mais des fois on n'est pas content. Il y a beaucoup de maires qui s'interrogent d'ailleurs face aux responsabilités, parce que ils se disent, vu le travail qu'on doit faire, voilà, ils hésitent.
Oui, c'est sûr, on est souvent sollicité. Il y a du bon, puis il y a du pas bon de temps en temps. Bon, en règle générale, c'est toujours du bon. Moi, j'ai jamais eu de gros problèmes, hein. Mais il faut savoir aussi s'adapter à la population, s'adapter aux gens. Il faut faire des efforts. Nous, les maires aussi, hein, on doit faire des efforts, comme les citoyens doivent faire des efforts. Mais ça se passe bien, je vais pas dire le contraire.
Alors vous êtes au sein du Grand Reims également. Est-ce que, et là c'est une question qu'on pose à chaque fois, est-ce que quand même le maire reste le patron chez lui, malgré tout, malgré cette structure avec laquelle il travaille?
Oui, si vous voulez, moi j'ai participé énormément à la formation du Grand Reims, puisque j'étais président de ma communauté de communes, et quand on a mis en route le Grand Reims, on s'est réunis, il y avait un comité de pilotage où je participais, hein. Donc le Grand Reims, oui, on perd des compétences, mais le patron dans la commune, c'est toujours le maire quand même. Et c'est justement un petit peu la difficulté avec les services du Grand Reims, où les services auraient tendance un petit peu à nous exclure. Mais comme je dis, moi, au nouveau maire qui arrive, c'est à nous de suivre le mouvement. Il faut surtout pas se retirer, ça, c'est sûr qu'on perd la main, hein. Donc, le Grand Reims, c'est quand même une bonne chose. Bah, y a du bon puis du pas bon. On a la chance d'avoir Catherine Vautrin, que je connais très bien, moi, puisque j'ai travaillé avec elle, hein, quand elle était députée, qui a toujours fait très attention de nous respecter, les maires. De dire, bah, vous êtes là, c'est vous la cheville ouvrière, quand même, du Grand Reims. Alors, c'est pour ça que les maires, nous, il faut suivre les indications du Grand Reims. Il faut être là, il faut être à l'écoute de ce qui se passe avec le Grand Reims. Ça, c'est certain, on peut se faire dépasser.
Alors, quel type de demande, quelles sont les questions qui sont formulées par les habitants aujourd'hui chez vous, dans votre commune, à Romigny?
La grosse demande, c'était la sécurité de la RD 980. Qui traverse le pays. Donc on a fait des travaux là pour aménager, enfin de la peinture, pour aménager le ralentissement des voitures, parce qu'on a quand même une grande départementale qui passe chez nous. Et puis bon, bah, dans l'ensemble, c'est le bien-être du village, hein. On fait tout ce qu'il faut pour que les gens se trouvent bien dans le village, hein. Bon, après, toutes les compétences, c'est le Grand Reims qui règle les problèmes. Hein. Mais les grosses demandes, c'est ça, c'est le bien-être du village.
Est-ce que vous avez, vous, Bruno Cauchemet, un certain nombre de projets à court ou à long terme avec votre commune? Évidemment, vous n'avez pas un budget exceptionnel pour faire tout ça, mais vous avez quand même quelques projets, quelques idées en tête?
Eh bien, des projets, oui, bon, on a un projet de réaménagement un peu d'un ancien lavoir, mais c'est un petit peu compliqué, qui se trouve sur un terrain, bon, qui date de la construction du... C'est la même construction que les Halles de Reims, donc nous, on voulait le faire un peu classé avec le Grand Reims, et puis ça s'est pas bien passé. Bon, là, on aurait un peu un projet de savoir qu'est-ce qu'il faut faire pour le rendre... propre quoi, puis utile, et puis bah, des projets, si on aurait un projet d'aménagement un petit peu de service aux enfants, de faire un peu un terrain de jeu si vous voulez, hein, parce qu'on n'a pas grand chose, on a des projets, mais les projets, bah, c'est les finances qui nous,
bien sûr,
qui nous bloquent un petit
c'est
peu.
C'est le hein, nerf de la guerre, hein, Bruno Cauchemet.
De la guerre.
Alors, maire et vie professionnelle, vous l'avez été, mais vous êtes maire depuis plusieurs dizaines d'années, maire et vie familiale, vous avez réussi à concilier les deux en une minute?
Eh ben, c'est pas facile, mais je dois reconnaître que mon épouse a très bien accepté ma fonction, hein, ce qui n'était pas si simple que ça, parce que j'étais cultivateur quand même. Donc moi, j'avais la ferme à tourner. Bon, on avait trois enfants. C'était pas toujours simple, mais je reconnais que mon épouse a toujours, m'a toujours laissé libre de mes engagements, ce qui n'était pas toujours facile. Donc je lui rends toujours hommage pour ça. Et puis, bon, ça n'a pas toujours été simple. Hein. Et de temps en temps, bah, j'étais dans les champs et il fallait que je revienne pour être présent. Et ce n'était pas toujours facile, hein, je reconnais. Oui. Hein,
Bruno Cauchemet, on termine, il nous reste à peine 20 secondes là. Est-ce qu'on peut dire, pour terminer, je le demande à chaque fois, est-ce que vous êtes un maire heureux? On vous sent passionné. Vous êtes heureux d'être le maire finalement?
Oui. Avec tous les problèmes qui peuvent se greffer. Hein.
Mais malgré tout, le plus l'emporte.
Ah ben moi, le plus l'emporte, oui, tout à fait. Dans Merci. Ma commune, avec mes gens. Hein.
Merci en tout cas, Bruno Cauchemet, d'avoir été avec nous aujourd'hui. À bientôt, au revoir.
À bientôt, au revoir.
Voilà, il est pratiquement 18h30, pas de journal régional complet, mais trois titres d'information. Le premier, c'est que toujours l'expectative, après les déclarations du président de la République Emmanuel Macron à propos de l'avenir à la fois du gouvernement et des dispositions de la loi immigration, on aura l'occasion d'en reparler avec Fernand Tavares dans des émissions futures, puisque ça sera la grande interrogation de l'année. Et vous savez que le journal L'Union a posé la question encore il y a quelques jours, à savoir est-ce que Arnaud Robinet, maire de Reims, pourrait être ministre de la Santé, car vous savez, si le ministre de la Santé a démissionné, il a été remplacé par sa secrétaire d'État qui est nommée par intérim, donc tout est possible, on aura l'occasion d'en reparler. Je le disais tout à l'heure, pour le diocèse de Reims, vous retrouverez Mgr Étienne Véteux vendredi, qui nous proposera une méditation en quelque sorte autour de la paix dans l'émission du matin Parole d'évêque, qui sera rediffusée également dans le magazine du week-end et le soir. Et puis enfin, troisième titre, Mgr Éric de Moulin-Beaufort, il sera avec nous tout au cours de la semaine prochaine, en tout cas le matin, et aussi vendredi prochain, pour ses vœux pour 2024. En attendant, on va revenir dans cette ambiance de Noël et du 1er janvier, avec un Noël et un 1er janvier ardennais au cours de l'histoire. C'est une autre époque, c'est le 20e siècle, c'est même au milieu du 20e siècle, lorsque Jacques Terret, du côté d'Areux et de Gesponsard, était en culotte courte. Il est avec nous aujourd'hui pour nous en parler. Jacques Terret, bonjour.
Bonjour.
En cette période de Noël, avant Noël, après Noël, entre les fêtes, c'est l'occasion d'évoquer les Ardennes, les vieilles Ardennes avec vous, terre d'histoire, terre de mémoire. Ont-elles gardé encore quelques vieilles coutumes, des façons particulières de fêter Noël? C'est l'occasion pour nous de venir fouiller dans votre mémoire, Jacques Terret, dans vos souvenirs de gamin d'autrefois qui a grandi dans ces années de l'après-guerre.
Eh bien, bien sûr, mais les Noëls de mon enfance, c'était quelque chose d'exceptionnel, une fête religieuse d'abord, dans les difficiles conditions de la fin de la guerre et des recommencements. Alors, vous savez ça par cœur, mais moi je l'ai vécu étant tout gamin. Les conditions de vie, la pauvreté, les privations et puis quelquefois la faim. Et donc, si vous voulez, la crèche pour nous, ça avait une importance exceptionnelle. Et on l'a commencé dès la première semaine de l'Avent. Et donc, on avait des crèches qui nous parlaient, hein, en papier gris, souvenez-vous, avec des papiers d'emballage, et puis avec des petits cotons, des petits bouts de ouate, des petites boules pour faire les flocons, et on installait les personnages de la crèche. Et donc, tous les soirs, et les matins aussi, on faisait notre prière devant la crèche. Et puis Noël, eh ben, c'était la fête exceptionnelle avec trois messes. Rendez-vous compte, Jean-Pierre, trois messes. La messe de minuit, la messe de l'aurore et la messe du jour. C'était le sommet d'une fête exceptionnelle.
Quand vous dites les trois messes, Jacques Terray, on pense aux trois messes basses des Lettres de Montmoulin d'Alphonse Daudet.
Ah ben bien sûr, alors figurez-vous, je ne sais pas si Alphonse Daudet, les Lettres de Montmoulin...
Il y a des gens pour lesquels ça dit rien, si vous voulez, Jacques Terray. Je ne dis pas que tout le monde est inculte, je n'insulte pas les auditeurs de RCF Reims-Ardennes, mais quand on parle des Lettres de Montmoulin et d'Alphonse Daudet, il y en a qui ont besoin d'un petit rafraîchissement de mémoire. C'est un problème de culture générale.
Alors, c'est-à-dire que les trois messes basses, ben, si vous voulez, Alphonse Daudet, c'était un peu l'auteur des enfants de l'époque. Moi, je me souviens avoir lu Le Petit Chose. Ah, ça vous dit peut-être. Et les
Absolument.
Trois messes basses, les trois messes basses, c'est un conte charmant. Hein. Je l'ai sous les yeux, deux dindes truffées, Garrigou. Oui, mon révérend, des dindes magnifiques, bourrées de truffes. J'en sais quelque chose. Et alors, voilà que le révérend Balaguer, il prononce les trois messes à toute vitesse parce qu'il est poussé par cet infernal petit enfant de cœur avec sa clochette. Et bien sûr, il connaît et il bat que les trois messes, hein, et c'est un péché impardonnable. Et tous les personnages vont être tous les ans convoqués au-delà du paradis ou de l'enfer, convoqués pour rejouer ce conte de Daudet. Alors les trois messes basses, moi ça me parlait beaucoup parce que j'étais enfant de cœur, un petit enfant de cœur, et donc je faisais les trois messes. Rendez-vous compte.
Alors, la veillée de Noël, bon, on va y revenir parce qu'on est toujours dans cette histoire de Noël. Un esprit encore un peu étriqué nous dira « Ah ben oui, mais Noël, c'est passé. Maintenant, c'est passé. On parle plus de Noël. » Le monde de Noël, même sur le plan liturgique, ça n'est pas que la fête de Noël. C'est toute cette période de Noël qui va aller jusqu'à l'épiphanie, au fond, et qui va traverser le passage au 1er janvier 2024.
Ben bien sûr. D'ailleurs, vous évoquez l'épiphanie, les rois mages. Figurez-vous qu'on les plaçait déjà...
Ils sont déjà dans la crèche, hein ?
Oui, mais ils étaient un peu loin de la crèche. Et tous les jours, on les avançait un petit peu. La caravane avançait. C'était formidable, hein ? Et alors, cette crèche de Noël, si vous voulez, qui était très important pour nous, c'est que on découvrait auprès des petits personnages... On franchissait le seuil du sacré, si je puis dire. On découvrait la fragilité, la beauté, le mystère, la valeur de toute vie nouvelle. Le petit enfant Jésus qui venait naître, un Dieu qui se laissait approcher. Extraordinaire, c'était le catéchisme pour nous. Hein. Et donc ce Dieu, ce petit enfant, choisissait la faiblesse et la pauvreté pour donner un sens à notre vie. Alors rendez-vous compte. Hein. Alors... Le banquet de Noël, on n'avait pas de sous pour faire la fête, hein. On veillait avant la messe de minuit, hein, et donc pas de cadeaux, pas de sapin même, hein, mais on était à partager quelques oranges, au mieux, parce que les oranges étaient très rares à l'époque, hein, du pain d'épices, un foulard pour les filles, pochette de mouchoirs brodés. Hein, et donc, tout cela, ça prenait une valeur. Et puis alors, autour de la cuisinière, car on...
Alors justement, j'ai envie de vous demander, parce que le temps passe très vite avec vous, Jacques Terray, comment vos parents, et votre mère en particulier, marquaient Noël à la cuisine? Y avait-il des spécialités ardennaises pour terminer?
Ah ben, bien sûr. Hein. Alors, si vous voulez, notre mère, sur la grosse cuisinière au feu de bois et de charbon... Hein, on entamait les gaufres et puis on faisait un cacao chaud, on ne disait pas encore chocolat chaud. Hein. Et puis, souvent, au petit matin, elle commençait le pot-au-feu. Alors, entre deux messes, on avait le droit à un bouillon brûlant, l'exceptionnel pot-au-feu. Et puis, alors, les tartes ardennaises en pâte levée, hein, au sucre, aux fruits, aux blosses. Et puis, il y avait le cougnou. Savez-vous ce qu'a un cougnou?
Ben, rappelez-moi, Jacques Terray.
Eh bien, ma brave mère était belge, naturellement. Et en Belgique, et encore aujourd'hui, on fait des cougnous. Alors, c'est une grosse brioche hein, en forme d'enfant. On reconnaît la silhouette, la tête, et puis le corps emmailloté. Hein. Et donc, c'était un petit Jésus qu'on partageait. Alors, vous allez me dire, on est loin du catéchisme, à manger le petit nouveau-né. Hein. Eh bien, est-ce que ça, il n'y avait pas par derrière une vieille coutume issue de je ne sais où, hein, parce qu'on partageait le Jésus qui plus tard va nous dire, hein, après sa mort, ceci est mon corps, ceci est mon sang. Je sais pas, ça j'invente un petit peu.
Merci. Merci Jacques, on est obligé de nous quitter. De toute façon, on va se retrouver sur RCF. On l'a promis.
Qui restent dans le port, de peur que les courants les entraînent trop fort. Je connais des bateaux qui rouillent dans le port, à ne jamais risquer une voile au dehors. Je connais des bateaux qui oublient de partir, ils ont peur de la mer. À force de vieillir, et les vagues jamais ne les ont séparés. Leur voyage est fini avant de commencer. Je connais des bateaux tellement enchaînés qu'ils en ont désappris comment se regarder. Je connais des bateaux qui restent à pour être vraiment sûr de ne pas se quitter.
Voilà, après cette pause musicale de Manic, je vous propose de retrouver Patrick Demuy. Inutile de le présenter, universitaire, historien. Il évoque pour nous Noël dans l'histoire, les crèches, le 1er janvier. Bref, Patrick Demuy qu'on retrouvera souvent cette semaine. Patrick Demuy, bonjour.
Bonjour Jean-Pierre.
Alors c'est vrai qu'on parle beaucoup de Noël en ce moment, mais dans l'histoire, l'historien que vous êtes va nous donner quelques renseignements. Depuis quand célèbre-t-on Noël ?
Alors nous autres chrétiens d'Occident célébrons Noël le 25 décembre depuis le 4e siècle. Les premiers chrétiens ignoraient cette date, ça ne veut pas dire qu'ils ne célébraient pas Noël, encore que la fête principale était Pâques, évidemment. Si le Christ n'est pas ressuscité, notre foi est vaine, dit saint Paul, et c'est la mort et la résurrection du Christ qui étaient particulièrement célébrés par les communautés. Mais assez vite, les chrétiens ont voulu aussi marquer le souvenir de l'incarnation, mais dans les églises d'Orient, celles sur lesquelles nous avons le plus de renseignements, cette célébration était au 6 janvier. On fêtait en même temps la naissance du Christ, l'épiphanie, le baptême, au fond tout ce qui était effectivement une manifestation au sens d'épiphanie, de cette lumière qui était donnée à l'humanité. Alors le 6 janvier, le 6 janvier nous l'avons conservé actuellement comme fête de l'épiphanie, enfin ou maintenant le premier dimanche de janvier, puisque l'épiphanie chez nous n'est plus un jour férié, contrairement à certains pays encore. Pourquoi le 6 janvier ? Alors, vous savez qu'il y a souvent une volonté des premiers chrétiens de christianiser des fêtes antérieures, de donner un nouveau sens à des célébrations qui étaient familières à leurs contemporains. Il y avait le 6 janvier une fête en l'honneur de Dionysos en relation avec l'allongement des jours. C'était aussi en Égypte et au-delà un jour consacré à Osiris. Il y avait là des manifestations de dieux païens que l'on remplace par la manifestation de ce Christ, fils de Dieu. Et l'usage donc était vraiment bien attesté dans les premiers siècles en Orient. Nous avons les témoignages lors d'une dame espagnole qui avait fait un pèlerinage à Bethléem et qui nous parle du cortège qui se rendait pendant la nuit jusqu'à la basilique au milieu des chandelles. Ça, c'est un élément extrêmement important qui accompagne toujours la fête de Noël, qui est une fête de la lumière, hein, la lumière qui gagne dans les ténèbres. Alors, à quel moment voit-on arriver une autre date que le 6 janvier ? Alors ça se passe, chez nous, ça se passe à Rome. Hein. La volonté de dissocier la célébration de la naissance, l'épiphanie, le baptême, parce qu'il y avait le risque d'un certain syncrétisme, ou de prendre au pied de la lettre ce que dit l'Évangile quand le Christ est baptisé, une voix se fait entendre, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, écoutez-le », qui a pu faire penser à certains que le Jésus avait été adopté par Dieu au moment de son baptême, alors que, évidemment, pour les catholiques, il est vrai Dieu et vrai homme, et le Concile de Nicée de 325 affirme que Dieu s'est fait homme le jour de naissance de Jésus, est homo factus est, et alors à la messe de minuit, quand nous chanterons avec la maîtrise ce verset, nous allons le chanter en polyphonie pour bien montrer l'importance de ces mots, il s'est fait homme.
Une simple question quand même, j'allais dire, de ceux qui nous écoutent et qui pensent bien évidemment aussi à l'hiver. Or, l'hiver, c'est pas le 25 décembre, c'est un petit peu avant. Donc, oui, voilà, comment expliquer ce décalage entre l'hiver et Noël ?
Voilà une bonne question, excellente question. Je reconnais là le bon journaliste. Là, nous avons, notre solstice au 21 décembre. Il était le 25 décembre à Rome. Et effectivement, c'est là la réponse. C'est qu'il y a eu à nouveau phénomène de substitution d'une fête à une autre. Le 25 décembre, dans la Rome païenne, était un jour de fête du soleil, précisément. Le sol invictus, le soleil invaincu, puisque, après avoir décru, il repartait. Et le solstice était particulièrement célébré. Et donc, c'est l'occasion de rappeler que Jésus est la vraie lumière qui éclaire les nations, qui surgit dans les ténèbres. Saint Ambroise nous dit « c'est le Christ qui est notre nouveau soleil ». Et saint Augustin exhorte à ne pas adorer le soleil le 25 décembre, mais celui qui l'a créé. Donc tout ça a été très conscient hein, dans le choix d'une date qui était hautement symbolique pour la société de ce temps. Alors ce n'est pas le seul geste solaire, si je puis m'exprimer ainsi, puisque on doit aussi à Constantin, dans les mêmes époques, nous sommes en 321, d'avoir donné un repos hebdomadaire au jour du Seigneur, dies Dominica, le dimanche des chrétiens. Nous parlons-nous du dimanche, mais rappelons-nous que nos voisins anglais parlent de Sunday et nos voisins allemands de Sonntag, c'est le jour du soleil. Hein. Tous les autres jours de la semaine ont des noms de lune, de Mars, de Jupiter, de Vénus, etc. C'est le jour du soleil. Et vous voyez, tout ça est assez cohérent. C'est de remplacer un culte solaire ou à la mention du soleil le culte de la vraie lumière qui est Jésus venu dans le monde.
Patrick Demy, on pourrait en parler pendant des heures. Encore une question, mais qui est simplement pas pour prolonger, car le temps passe très très vite avec vous. C'est à propos justement de l'hiver. Là où la journée est la plus courte, il y a quand même un décalage entre cette journée et celle du 25. Je ne sais pas, j'ai fait un petit calcul, mais je ne sais pas si c'est exact. C'est-à-dire que l'hiver, mettons, c'est le 21, 22 ou 23, enfin.
Oui, 21, oui.
21.
Oui.
Et dans ces eaux-là, c'est le jour le plus court, mais entre le 21 et le 25, alors là, j'exagère un petit peu, je triche un petit peu dans les jours, il y a finalement les trois jours qui pourraient être, j'allais dire, le triduum pascal.
Oui, en fait, c'est plutôt que il y a eu décalage du calendrier, puisque nous sommes dans un calendrier dit grégorien depuis le XVIe siècle, et les Romains dans un calendrier julien, et ce calendrier julien a amené progressivement un décalage. La preuve, c'est qu'en 1582, nous avions 10 jours de retard par rapport au mouvement même des astres, et qu'il a fallu gommer cette différence. Donc là, nous sommes plutôt dans des problèmes d'ordre astronomique, voilà, de calcul astronomique.
Eh bien, Patrick Demuy, vous nous avez éclairé dans cette période qui est aux alentours de Noël. Merci en tout cas d'avoir été avec nous et à très bientôt sur RCF.
À bientôt, au revoir Jean-Pierre.
Vous êtes à l'écoute de ce magazine local de 18h10 à 19h sur RCF dans cette période de vacances. Et je vous propose, on l'a entendu tout à l'heure dans Regard sur le monde, mais de l'entendre avec un autre regard, Claude Ruiz, à propos des monuments et à propos de Noël 2023. Claude Ruiz est avec nous.
En cette période de fête, on a plaisir à retrouver Claude Ruiz qui nous balade sur différentes thématiques. Claude, bonjour.
Bonjour.
Bon, vous nous baladez, mais quand même avec un sens logique. Après les sites naturels et les villes empreintes de religieux, nous allons terminer cette série en évoquant des monuments repères, Claude Ruiz.
Oui, alors je ne sais pas si c'est logique, mais c'est au moins pensé un petit peu. On essaye de cadrer un petit peu ces espaces.
C'est construit comme un cours, comme
oui,
si vous étiez un maître de conférence en
géographie. Non, mais je suis géographe, donc je reste dans les lieux. J'essaye de ne pas m'écarter, après c'est pas ma spécialité. Donc, en effet, ce sont souvent dans les expressions religieuses, puisqu'on retrouve, on l'a dit en ces moments de fête, ce sont souvent des bâtiments. Les bâtiments, c'est ce qu'on se rappelle aussi. Pas seulement le mont Olympe, pas seulement qu'il y a une ville, Kyoto, une ville religieuse au Pérou, d'accord, du côté de Cusco, mais on est dans quelque chose où c'est plus étroit, plus petit, plus remarquable la plupart du temps, donc on en connaît quelques-uns, ce sont des bâtiments. Les églises, les temples, les synagogues, les mosquées, ce sont les repères de la spiritualité. Alors certaines ont, je dirais, sont restées un petit peu cachées pour la spiritualité. D'autres, au contraire, sont remarquables à la fois au sein de la société qui les a mis en avant, mais aussi au niveau international pour ce qu'elles se représentent. Pour les catholiques, nous pouvons donner quelques exemples. Alors, je ne vais pas en citer parce qu'ils sont des dizaines et des dizaines ou des centaines. Mais le pèlerinage, par exemple, à Saint-Jacques de Compostelle, même si c'est le chemin qui est l'essentiel, qui va être l'important dans le cheminement religieux, il se termine à la cathédrale de Santiago. Et donc, Santiago de Compostelle, qui abrite aujourd'hui la relique du saint, elle est d'une exubérance un petit peu surprenante. On a une chapelle d'origine qui a été délimitée aux alentours de l'an 1000, un petit peu avant. Et puis, il y a eu des nouvelles constructions au XIe siècle. Il y a eu des superpositions d'architecture romane, gothique, un baroque époustouflant sur la façade. Donc là, on a, si vous voulez, une sorte de construction. Et en plus, le monument, avec le temps, il s'enrichit, se densifie parfois et il joue un rôle important, même à l'échelle internationale.
Est-ce que l'on retrouve des monuments repères aussi dans le protestantisme, par exemple, Claude ?
Oui, l'exemple similaire pour la fonction. Alors, bien entendu, chaque religion ayant un rapport au sacré un peu différent, il est évident que l'expression qu'elle va avoir sur le plan du terrain et des monuments sera un petit peu différente. Pour le protestantisme, on pourrait citer l'église du château de Wittenberg, donc en Allemagne. C'est le lieu, donc, je dirais, de l'expression de la réflexion protestante, de l'ouverture, avec surtout quand même de très très lourdes portes de bronze, comme si on avait, je dirais, une sorte de chemin définitif. Alors, Wittenberg, où ça se trouve, c'est au nord de Leipzig, c'est-à-dire en Saxe, en gros dans le nord de l'Allemagne, on va dire nord-est de l'Allemagne. Martin Luther, donc, a placardé sa lettre, la première lettre, donc, d'expression de refus, en réalité, sur ce portail historique, qui, à l'époque, était en bois. Maintenant, c'est en bronze, et ça marque aussi la puissance de la religion. Mais on était dans un cadre historique. L'intérieur de l'église est une grande simplicité. Donc, vous le voyez, ça correspond aussi à une sorte de volonté, en fin de compte, de ce protestantisme de montrer, d'avoir une image un peu particulière. Ça renferme une pierre tombale avec une plaque, sigille Martin Luther, docteur en théologie. Donc, vous voyez, on s'aperçoit que les monuments, même certains très importants, ils sont une illustration de la réflexion philosophique ou religieuse.
Ce lieu est-il lui aussi valorisé ?
Oui, c'est un lieu relativement important. En réalité, il s'appelle s'appelait Martin Luder. Hein, il y a eu un changement de nom, L-U-D-E-R, et non pas Luther au départ. Martin Luder est inscrit en 1508, donc à l'école monastique de Wittenberg, et c'est là où se développent ses pensées réformistes, si vous voulez. Donc, c'est là où il va mettre en place un combat contre les indulgences qui étaient courantes, on va dire l'achat de sacrements, quand on avait besoin de sacrements. Et en 1517, Luder, toujours, publie ses 95 thèses, et c'est le début d'un conflit, d'une excommunication. C'est là où il change de nom, hein, il passe de Luder à Luther, venant du grec eleutheros, liberté. Donc vous voyez, il y a aussi, on voit tous les éléments qui se mettent en place. Et je vous rappelle que la Saxe, c'est l'Europe du Nord. Là aussi, le protestantisme va se développer géographiquement en fonction des sociétés qu'il rencontre. Alors le bâtiment, lui, il a connu un incendie, il est en 1760, il a été reconstruit, restauré, et les portes de bronze, elles datent de 1858. Donc vous voyez, il y a un élément de la durée dans lequel on agit, et puis il y a d'autres réformateurs qui étaient dans la zone, comme Philippe Melanchthon, qui est enterré dans cette église. Donc de ce fait, c'est un haut lieu, j'allais dire, pas forcément malgré lui, mais c'est quelque chose qui est un peu hors norme.
Un lieu sacré peut-il être utilisé par plusieurs religions différentes, Claude ?
Oui, même, j'allais dire, un des plus beaux du monde. On cite souvent, alors les mélanges ne se font pas, hein, c'est pas 10 religions sur un même espace. C'est souvent la rencontre de 2 ou 3. C'est le cas, par exemple, de la cathédrale de Cordoue, qui a été développée et construite à l'intérieur d'une mosquée. Hein, puisque là, le bâtiment étant tellement important, il y a un problème d'investissement. Hein, donc vous le voyez, et de volonté de reprendre, en fin de compte, un lieu sacré. Donc le lieu, nombreux jardins... Hein, on cite toujours, vous savez, les orangers, les oliviers de cet environnement de la cathédrale de Cordoue. En réalité, il y a eu la conquête arabe, donc au 8e siècle, la construction de la grande mosquée, 11 nefs. Donc c'est grandiose, et donc bien entendu, ensuite, on a eu une volonté de réutiliser ce site.
Comment en est-on arrivé à avoir une église dans une mosquée ?
C'est la reprise du territoire espagnol, comme je le disais, par Ferdinand III en 1236. Et il y a la reprise par le christianisme, et au XVIe siècle, le roi Charles Ier autorise la construction d'une chapelle. Mais au bout de 3 siècles, en réalité, vous avez une église à l'intérieur de la mosquée.
Ces marqueurs de spiritualité et lieux de manifestations, est-ce qu'on les retrouve partout à travers le monde, l'Europe? Dites-nous tout, Claude.
Oui, on peut avoir des réhabilitations, c'est ça, c'est pour montrer que l'histoire est à la fois très diverse mais aussi très similaire pour des sociétés qui ont les mêmes problèmes et qui les résolvent souvent de la même façon. Donc il y a eu, par exemple, au Japon, on est passé dans le cas d'une réhabilitation pratiquement de tous les temples. Mais je vous rappelle qu'au Japon, les constructions sont en bois. Donc comme elles périssent très vite, le principe des Japonais, c'est de les reconstruire à l'identité. Donc vous voyez, il y a une pérennité là, du fait même du système. Et bien entendu, les marqueurs à Reims, on est bien placé pour rentrer un petit peu dans ce cadre-là aussi de la reconstruction, rénovation, reconstruction, qui sont des marqueurs de ces aspects. Mais ça serait pareil, on irait à Moscou, la cathédrale du Christ Sauveur, elle a été reconstruite récemment, hein, et mise en avant et réhabilitée. Donc je crois que c'était... Cette cathédrale du Christ Sauveur, c'était en fin de compte la célébration d'une victoire sur Napoléon, hein, je vous le rappelle. Mais voilà, ça a été... tout le monde y a mis du sien, à part Staline qui a construit une piscine à la place. Mais ensuite, on est revenu et on a reconstruit.
Il faut dire, Claude Ruiz, que ces différents lieux sont toujours renforcés aussi parce que invoquent l'histoire et ce que l'histoire écrit.
Oui, je crois que c'est ça, c'est l'histoire des sociétés. Alors, on se rapproche plus ou moins de l'histoire, mais certaines ont de très fortes épaisseurs du temps à partir du moment où il y a une représentation et des reconstructions permanentes.
Eh bien, merci Claude Ruiz d'avoir été avec nous ces derniers jours, de nous avoir éclairé sur ces différents sujets. On vous dit à très bientôt, Claude.
Au revoir.
Au revoir.
Merci Claude Ruiz de nous avoir accompagnés. Merci à toutes celles et tous ceux qui ont participé à cette émission et à Thierry Dully à la mise en onde. Nous vous souhaitons bien sûr une très très bonne semaine. Profitez bien de ce temps de repos entre Noël et le 1er janvier. Et puis nous, on vous donne rendez-vous demain matin. Notre invité à 7h et 8h sera Jean-Christophe Bobin. Il est directeur adjoint de la pastorale de l'enseignement catholique dans les diocèses de Châlons et de Reims-Ardennes. Bonne soirée, à bientôt sur RCF.